Et je dois dire que c'est un peu la vie du mouvement des Focolari. Vous savez que ça a été la lecture de ce texte du chapitre 17 de Jean qui a vraiment déclenché en Chiara. Elle avait commencé par l'amour de Dieu, elle avait commencé vraiment à se mettre avec ses compagnes, toutes ensemble, à faire la volonté de Dieu, à vouloir l'aimer. Mais cette prière a vraiment, en quelque sorte, elles ont compris, c'est pour ça qu'on est venu au monde, c'est pour cette prière, pour que cette prière ne soit pas une prière, pour qu'elle puisse être exaucée par le Père. Et incroyablement, elle raconte que cette prière très difficile, il lui a semblé qu'elle coulait de source et elle l'a expliqué d'un bout à l'autre. Et elles ont compris, c'est pour ça qu'on est venu au monde. C'est pour que tous soient un, parce que Jésus le dit, donc le demande dans cette prière. Alors, même si j'ai beaucoup médité cette prière, je l'ai expliquée. Vraiment, ce matin, pour moi, ce n'est pas vraiment facile d'en parler parce que c'est une prière, comme nous l'a dit hier Gianluca, qui s'est limité aux 5 premiers versets du chapitre 17, qui est comme une introduction de ce que Jésus va dire au Père. C'est très difficile, mais tentons un petit peu ensemble comme on peut. Et aussi avec ce sens de sacré, parce qu'on est là en train d'écouter Jésus qui parle au Père au moment de l'heure, et l'heure, c'est vraiment l'heure de la passion, de la mort, aussi de la résurrection, mais aussi de la passion et de la mort. C'est l'heure du retour au Père, parce que Jésus retourne au Père, donc je viens de toi, mais je retourne à toi, retourne au Père avec nous, dans son humanité. Donc, il est venu du Père, il a été envoyé par le Père, mais il retourne pas seul, il retourne avec nous. Donc c'est vraiment un moment sacré. Et donc un peu comme Moïse qui se voile la face, parce que c'est le lieu où Dieu habite, c'est le lieu aussi de la révélation de qui est Dieu. Mais on pourrait vraiment craindre, et j'ai pu constater que certains livres sur l'évangile de Jean, même le cardinal Martini, il saute le chapitre 17. C'est un peu trop difficile. Enfin, c'est pas évident à expliquer. Mais on a le courage parce que c'est peut-être ce à quoi peut-être aujourd'hui, non seulement nous comme mouvement, mais aussi l'Église est appelée. Et si le pape François a mis en route toute cette préparation d'un synode, cette synodalité qui nous appelle tous. Vraiment là, on a une clé pour la synodalité. Alors, donc cette prière qui se situe exactement au moment de l'heure. Père, l'heure est venue. C'est vraiment l'introduction et l'heure. C'est sûr que c'est l'heure de la gloire, mais c'est aussi l'heure de la mort. Quand Jésus va être crucifié. Et que demande-t-il à l'heure, au moment de l'heure? On peut remarquer que Jésus ne demande pas d'être sauvé de cette heure. Vous rappelez, les synoptiques nous parlent du jardin des Oliviers, où Jésus dit « Éloigne de moi ce calice hein ». Eh bien, on a un peu la même chose au chapitre 12 de saint Jean, où Jésus dit « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Donc, Jésus a bien conscience de ce qui va se passer. Et alors, on entend une voix du ciel. Et Et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Pardon, je ne voulais pas lire en tout entier. Et on entend, et Jésus dit, Père, sauve-moi de cette heure. Père, glorifie ton nom. Mais c'est pour cela que je suis venue à cette heure. C'est pour cela que je suis venue du Père. C'est pour cette heure-là. Alors, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venue à cette heure. Père, glorifie ton nom. C'est vraiment l'heure, c'est l'heure de la gloire et de la souffrance. Et du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. Alors, au chapitre 17, Jésus ne demande pas d'être sauvé de cette heure. Il profite de l'heure, donc de ce moment crucial, pour faire une demande inouïe à son Père, très audacieuse, celle de l'unité. Mais pas de n'importe quelle unité, de l'unité comme celle qu'il a avec le Père. Souvent, on risque, nous dans le mouvement des Focolari, de dire que tout soit un. C'est ça, c'est vrai, c'est notre vie. Mais on peut dire que dans cette prière, Jésus demande 4 fois l'unité. Pas une seule fois, et 2 fois de façon implicite. On a une première demande au Père, au verset 11. On peut le diviser en 2 parties, 11b. Père Saint, Père Saint, et ce n'est pas un hasard si Jésus dit Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. C'est la première demande, c'est au verset 11. Que demande Jésus ? C'est un peu mystérieux. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Être gardé dans le nom que le Père a donné à Jésus, certaines traductions qui ne sont plus acceptées disent garde dans ton nom ceux que tu m'as donné. Non, garde-les dans le nom que tu m'as donné. Qu'est-ce que c'est le nom dans la Bible ? C'est la réalité de la personne. C'est son être même. Le nom du Fils, c'est d'être Fils. C'est d'être engendré de toute éternité. Le nom que le Père a donné au Fils, c'est donc le Fils, c'est d'être Dieu. En demandant de nous garder dans le nom que le Père lui a donné, Jésus demande, c'est une demande inouïe, que nous soyons Fils comme il est Fils. Par ces mots, donc du verset 11b, disent les exégètes, le Christ déclare sa ferme volonté d'associer sans aucune limitation ses disciples à la réalité divine dont il est porteur. De nous associer à cette réalité divine, de nous faire fils comme il est fils. C'est la divinisation. Il en découle, parce que le verset continue, pour qu'il soit un comme nous. C'est parce que nous sommes fils que nous pouvons être un. L'unité entre les croyants est donc une conséquence de ce don de filiation. Jésus demande que nous soyons fils, pleinement fils. Si chacun de nous et tous ensemble, nous sommes fils, comme le Fils, nous serons un comme eux. Bien sûr, parce qu'on a cette même réalité. On a donc Une première prière pour l'unité dans ce verset. L'unité est comme celle du Père et du Fils, comme nous, comme nous, comme nous, mais ça découle vraiment de notre être Fils. Une autre demande d'unité qu'on trouve encore dans ce chapitre 17, mais moins explicite que la première, mais est vraiment réelle. Et il s'agit d'être un par la parole, par la parole. Dès les premiers versets, la parole vient en relief. Jésus dit au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, Jésus qui fait comme un compte-rendu au Père de son travail, de son œuvre ici-bas, il dit au Père, je leur ai donné ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Et au verset 14, Jésus dit, je leur ai donné ta parole, je leur ai donné ta parole. Donc, et Jésus remarque qu'ils l'ont observé. Et au verset 17, Jésus fait une autre demande au Père, toujours à propos de la parole. Jésus demande, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Ils ont observé ta parole, je la leur ai donnée, mais Jésus demande plus encore de les consacrer dans la vérité, et la parole est vérité. La parole accueillie, observée, sanctifie, consacre, c'est un peu le même mot. Hein. Consacre, être consacré, ça veut dire ne plus appartenir, ça veut dire appartenir à Dieu, à un autre, être sanctifié. La parole nous consacre parce qu'elle nous met en Dieu, le seul saint, Père saint, hein, car nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à la parole. Et Jésus ajoute, ta parole est vérité. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité? Quelle est la vérité que Jésus a apportée au monde? En Saint Jean, c'est bien clair que la vérité, c'est la relation d'amour entre le Père et le Fils. C'est la révélation de la vie divine. C'est la révélation de la communion. Ta parole est communion. Et si on a un peu l'expérience de la parole, et bon, un petit peu d'expérience, n'importe quelle parole de Jésus, elle nous pousse à aimer nos frères. Donc, elle nous pousse à entrer en communion. Chacune des paroles de l'Évangile porte à la communion, porte à l'amour, porte à se donner aux autres. Je pourrais prendre un exemple. Ça paraît tout à fait étrange et pas du tout approprié à ce que je viens de dire, que la parole est communion, que la parole porte à l'amour, à la communion. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Eh bien, dans une communauté, si on met un masque, donc on n'est plus un oui, si on fait de la diplomatie, si on triche, alors la communion, elle ne peut pas exister. Non. Mais vous verrez, en vivant la parole, on voit qu'elle nous porte à l'amour, à la communion. Et les paroles exigent que nous soyons vrais avec nous-mêmes et transparents avec les autres. Donc, elle nous fait déjà un, elle nous met en communion. Consacre-les dans la vérité. dans la communion, ta parole est communion. Et donc c'est la parole nous fait un. Avoir faim et soif de cette parole, c'est peut-être l'unique nécessaire. Donc ce n'est pas une demande d'unité, mais c'est vrai que si nous sommes la parole, si nous sommes dans la vérité, dans la communion, eh bien l'unité, elle se fait. Donc c'est une deuxième demande de Jésus dans ce chapitre 17. Plus avant, au verset 20, 21, 22, 23, Jésus parle encore avec des nuances importantes selon les versets de l'unité. Et dans ces versets, Jésus se situe, fait comme un saut dans sa prière, il se situe dans la perspective de la transmission. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui, par leurs paroles, croiront en moi. Donc Jésus, on peut l'appeler le Christ selon saint Jean, disons le Christ dans la perspective johannique, envisage donc de façon explicite l'avenir de la communauté des disciples, donc de l'Église, après la Pâque, après l'Ascension. Dans les discours d'adieu, donc du chapitre 14, disons jusqu'au chapitre 16, Jésus avait promis à ses disciples d'envoyer le paraclet. Il s'était révélé lui-même, je suis la voie, la vérité, la vie. Il avait promis donc d'envoyer l'Esprit Saint qui aurait complété, rappelé sa personne et sa mission. L'Esprit comme un avocat qui défend, qui protège, qui parle, qui prend la parole à la place de l'accusé, à la place de celui qui ne saurait que bafouiller. Tout cela, ça reste vrai, bien sûr, c'est la transmission. Mais ici, Jésus parle d'un autre mode, il met l'accent sur un autre mode de transmission. Cet autre mode de transmission, elle est précisée au verset 20, c'est la parole des apôtres. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Vous vous souvenez de la mosaïque? Les pieds de Jésus s'appuient sur les quatre évangélistes. Donc, Jésus nous est transmis, Jésus, donc la foi en Jésus, donc la personne de Jésus, nous est transmis à travers les paroles des quatre évangiles et de celles de Paul, parce que la mosaïque souligne donc ce verset de Colossiens. Par leurs paroles croiront en moi. Jésus parvient à nous par la parole que les apôtres ont reçue, qu'ils ont observée, dit Jésus au verset 6, et que Jésus leur a donné, et qu'ils ont retransmise à leur tour. On a déjà une transmission d'unité. Ils l'ont vécu, ils l'ont observé, ça veut dire vécu, et ils l'ont retransmise. Donc, en quelque sorte, par la parole, on est unis aux apôtres, on est unis à Jésus. Donc, il y a encore là une réalité d'unité. Grâce à la demande de Jésus au Père qu'il soit consacré par la parole, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Ça aussi, ils ont été consacrés par la parole, donc ils nous ont transmis la vérité. La vérité est parvenue jusqu'à nous, la communion est parvenue jusqu'à nous. C'est magnifique, hein? On est relié à Jésus par les apôtres qui ont vécu la parole, qui ont été consacrés par la parole. Donc la parole, elle est venue du Père, par l'Esprit, dans le Fils, par les apôtres jusqu'à nous. Il y a toute une unité dans cette transmission. Et elle a été mise par écrit de quatre façons. De cinq, si on compte Paul, ce qui signifie que l'unité se fait dans la diversité. Mieux, qu'elle réside dans la diversité. Donc, quand Jésus dit « Je prie pour ceux qui, par leurs paroles croiront en moi. Il a déjà prié pour que nous soyons un. Puisque la parole nous met en communion avec le Père, par le Fils, avec les apôtres et entre nous. Mais il le dit explicitement, pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un, au verset 21. Ce verset 21, je vous le lis, mais on peut le diviser en quatre parties. Donc, verset 20, « Ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, que tous soient un. Afin que l'œuvre de Jésus puisse continuer après son retour au Père. Maintenant, je viens à toi, c'est donc l'heure du retour. Œuvre qui est de donner la vie éternelle, de révéler le Père, de donner la filiation à ceux que le Père lui a donnés. Donc, afin que l'œuvre de Jésus, qui consiste en tout cela, donner la vie éternelle, révéler le Père, donner la filiation, Jésus demande pour ceux qui viendront après, pour nous, c'est-à-dire pour l'Église, d'être un. Afin que tous soient un, par la parole. Hein? Et il précise tout de suite après ce qu'est cette unité. Il l'avait déjà dit au verset 11. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. C'est une unité qui est comme tu es en moi et moi en toi. Ce n'est pas une unité de type institutionnel, ce n'est pas une unité non plus de consensus. Le modèle de l'unité, c'est l'unité entre nous qui assure la présence de Jésus et de sa révélation. C'est l'unité réciproque du Père et du Fils sur laquelle elle est fondée. C'est donc à la relation du Père et du Fils que la communauté est invitée à s'associer et à se conformer. Pour que la prière de Jésus soit exaucée. Donc c'est un peu là, nous qui sommes mis en cause, en quelque sorte. C'est une prière. Donc c'est le Père qui doit l'exaucer. Mais il y a une disposition possible pour qu'elle soit exaucée. Quelle disposition ? On l'a déjà dit, la vie de la parole qui nous fait un. L'amour mutuel dont il a déjà été question par le commandement nouveau. Et l'amour mutuel, c'est, on pourrait dire, la parole de vérité par excellence, puisqu'elle crée la communion. Et une autre disposition qui est précisée tout de suite dans le même verset, « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, » que eux aussi soient en nous. Donc, être dans le Père et dans le Fils, dans cet amour parfait du Fils envers le Père et du Père envers le Fils. Quel est cet amour parfait ? Comment s'est-il manifesté ? Jésus fait la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pour cette heure que je suis venue. Donc, je viens pour que cette heure te glorifie. Donc, dans la volonté de Dieu. Et enfin, la dernière partie de ce verset 21 souligne la portée missionnaire de l'unité ainsi définie, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est trop dur, c'est trop compliqué. C'est fort. Vous voyez que tout ça s'est pétri de l'unité, de la parole, de la relation entre le Père et le Fils. Et le verset 22 continue. Il parle encore d'unité. Et comment parle-t-il d'unité ? Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus parle encore d'unité, mais cette fois-ci, il ne la demande pas au Père, mais il parle d'unité à partir de la gloire. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. L'unité qui doit prévaloir parmi nous, les croyants, n'est plus demandée au Père, mais elle est rendue possible par un don, celui de la gloire, que le Fils transmet aux croyants. Alors, on l'a un peu dit tous ces jours-ci, qu'est-ce que c'est la gloire ? C'est de savoir être croyant, c'est-à-dire savoir passer de la mort à la vie, savoir avec Jésus souffrir pour ressusciter avec lui. C'est le baptême, c'est toute la vie chrétienne, c'est la vie d'un croyant dont on a parlé hier. La gloire qui nous est donnée, je leur ai donné ta gloire pour qu'ils soient un. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre unité, elle doit passer par ce mystère pascal, par cette souffrance qui fait de nous des ressuscités. Donc, résumons, pour nous disposer, pour que la prière de Jésus ne soit pas vaine, pour que nous soyons en eux, dans la Trinité, pour que la mission soit vraiment mission, hein, sinon c'est une belle organisation, mais comme la mission du Fils, donc par la parole, on l'a dit, hein, répété, mais on ne le dira jamais assez, la parole nous fait un, la parole nous unit, la parole nous décortique de notre moi qui érige toujours une barrière avec les autres pour faire de nous un autre Jésus, par l'amour mutuel qui est parole, mais parole synthèse, peut-on dire, de l'évangile et de la vérité qui est communion, un mode de vie trinitaire, commandement que Jésus définit sien et nouveau. Et ce commandement nous permet d'être en eux, qu'ils soient en nous, parce que ce commandement est vraiment celui de la vie trinitaire, de demeurer dans la communion entre le Père et le Fils, la vérité par excellence. Donc c'est vraiment qu'ils soient en nous, qu'ils soient eux aussi en nous. Et ça veut dire, c'est vraiment l'invitation, disons, à vivre ce commandement de l'amour réciproque. Et ce commandement de la vie réciproque qui est si important parce que, d'abord, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Et puis, c'est la vie de l'Église. C'est la vie de l'Église. C'est la loi de la vie de l'Église. On pourrait dire vraiment, je prends quelques instants, ça va peut-être nous détendre par rapport à tout ce qu'on a dit sur ce chapitre 17, sur ces versets qui parlent de l'unité. Qu'est-ce que c'est la vie de l'Église ? Qu'est-ce que c'est la vie de l'Église aussi aujourd'hui dont nous parle Vatican II parce que au fond, tout ce qui nous arrive, pratiquement, ce sont des commentaires pour nous aider à vivre cette grande révolution qu'a fait le Vatican II. Par exemple, dans ce Novo Millennio Ineunte, de cette lettre apostolique de Jean-Paul II au seuil du troisième millénaire, il disait « La communion incarne et manifeste l'essence même du mystère de l'Église. C'est en réalisant cette communion d'amour que l'Église se manifeste dans le Christ comme un sacrement. L'Église est un sacrement, c'est-à-dire c'est le signe et l'instrument de l'union intime. C'est dans le Christ un sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Donc ce commandement nouveau, accueilli, vécu et peut-être aussi déclaré entre nous que nous voulons le vivre, que nous voulons tenter de le vivre et que nous voulons nous aider à le vivre, eh bien, il réalise pleinement la vie et la mission de l'Église. C'est un mot de Saint-Augustin qui dit « L'Église, c'est l'espace du monde réconcilié ». Et encore, Saint Bonaventure a une définition audacieuse. C'est l'événement, l'Église, c'est l'événement de l'amour réciproque. C'est là où il se manifeste. Alors, devant cette prière de Jésus pour l'unité, nous pouvons nous regarder dans les yeux et nous dire comment vais-je me disposer pour qu'elle soit exaucée. Elle est entre nos mains, il est entre nos mains cet exaucement de Jésus par le Père. Et là, nous, on a une expérience, comme mouvement, on est né pour l'unité, on est né dans cette prière de Jésus au Père, dans ce chapitre 17. C'est un peu notre charte, au fond, et je crois qu'on n'aura d'ailleurs jamais fini de l'approfondir. Mais dès qu'elles ont lu le commandement nouveau, et aussi cette prière de Jésus qui dit qu'il soit parfait dans l'unité, et elle le disait en latin, qu'il soit consumé, qu'il soit brûlé dans l'unité, que notre moi soit brûlé dans l'unité. Alors, c'était immédiat. Elles l'ont lu ensemble, pas chacune dans sa chambre, elles l'ont lu ensemble dans un moment où c'était pour elle aussi un moment de l'heure, parce qu'elle ne savait pas si elle pouvait vivre longtemps. Et bien sûr, c'est pas que chacune l'a entendu de ses oreilles, ce commandement nouveau. C'est un corps qui l'a entendu. C'est une petite assemblée, c'est un groupe qui l'a entendu. Donc, c'était une réponse collective qui a été donnée tout simplement par un échange de regards et en disant « Ok, j'y suis, je m'y mets, je veux vivre cet amour réciproque. » Après, on l'appelait un pacte d'être prêt à s'aimer comme Jésus nous a aimés. C'est un engagement qu'on prend ensemble, mais quand même qui est personnel. Et c'est ça le drame, on pourrait dire, parce que je m'engage... On s'engage ensemble à vivre, à être prêt à nous aimer comme Jésus nous a aimés. Il nous a aimés de plein de façons. Mais on peut regarder aussi le sommet de cet amour, le point culminant qui est de donner sa vie. Mais même en deçà, on peut se dire, c'est perdre mon idée. Mais il arrive que l'autre ne soit pas tout à fait prêt à vivre ça. Et alors, est-ce que pour autant... ce pacte qu'on a fait va être rompu et que c'est fini. Non. C'est un appel aussi personnel. On l'a vu le jour de la réconciliation, quand on a parlé de la réconciliation. C'est un appel à faire la part de l'autre, à demander pardon pour l'autre. Peut-être aussi à comprendre qu'il est en train d'aimer, pas comme je pense, moi, qu'il faut aimer, mais peut-être c'est sa manière d'aimer. Et il y a un passage très beau de Chiara qui nous dit, c'est vrai, le pacte de l'amour réciproque, ce commandement qu'on veut écouter et vivre ensemble, mais elle nous dit aussi dans un journal de 1964-65, elle nous dit que notre amour doit être comme une demi-droite. Une demi-droite, c'est pas une droite qui va de l'infini et qui part de l'infini et qui va à l'infini, mais comme une demi-droite qui a un point de départ, c'est notre cœur, et qui va à l'infini. C'est-à-dire qui recommence toujours à aimer et qui ne sait pas si le retour aura lieu. Mais peu importe, l'important, c'est que ça soit pour Jésus, et que ça aille vers cet infini qu'est Jésus. Donc, c'est une parenthèse, mais dans la vie du commandement nouveau, on ne peut pas faire l'économie de la solitude. Et encore, nous disposer, donc par la parole, par la vie du commandement nouveau, par la parole et par la communion des expériences, bien sûr, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est bien évident. Cette communion que vous essayez de faire dans les groupes, on s'est entraîné à la faire, encore par l'Eucharistie. Mais je ne vais pas me prolonger sur l'Eucharistie. Gianluca nous a dit plusieurs fois combien l'Eucharistie, elle est implicite dans ce don du commandement nouveau. ce don que Jésus fait au chapitre 13, dans ce lavement des pieds. Mais je voudrais simplement raconter une petite expérience que j'ai entendue de mes oreilles, c'est pas moi, pour que nous nous mettions à l'école d'une enfant, d'une petite fille africaine. Je suis arrivée là-bas et la maman m'a prise et elle a voulu me raconter ça. Donc sa fille, peut-être elle avait une dizaine d'années, peut-être même pas, elle participe un week-end à une rencontre du mouvement où on apprend à aimer, hein, à aimer, être les premiers à aimer, se faire un, donner. Elle revient, elle rentre à la maison le dimanche soir et le lendemain matin, elle se lève, elle s'habille et elle va à l'église toute seule. Il y a une seule messe en Afrique, enfin du moins là où j'étais, à 6 heures du matin, donc il fait encore nuit. Elle va à la messe. Elle rentre et puis elle va à l'école, etc. Le lendemain, c'est mardi, elle réveille, elles sont trois sœurs, elle réveille sa deuxième sœur pour aller avec elle, parce que c'est trop beau. Elle trouve une foule priante à 6 heures du matin, il fait presque encore nuit, mais une foule priante dans cette église. Le troisième jour, elle réveille la petite qui ne doit pas avoir 4 ans, 3 ou 4 ans, et toutes les trois, elles vont à la messe. Le samedi, elle réveille ses parents parce qu'ils ne vont pas au travail, donc ils doivent eux aussi venir à la messe, parce que bien sûr. Alors la maman lui demande mais pourquoi ? La réponse : sans cela, je ne peux pas aimer. Donc, sans avoir mis de mots sur ce qu'elle avait appris, sur ce qu'elle avait vécu certainement déjà pendant ces deux jours, où elle a fait une expérience authentique certainement de se perdre elle-même. Et elle a vu la joie que ça lui procurait, mais elle sait l'effort qu'il faut faire pour s'oublier soi-même, pour tenir bon. Elle sait que pour rester sur cette ligne de crête, pour rester dans cette mesure, elle a besoin de l'Eucharistie. Pour ne pas retomber dans le train-train d'un peu d'amour et d'un peu d'égoïsme. Tous les matins. Elle a donc compris que c'est là la source de l'amour, la source de l'oubli de soi, la source de l'amour authentique.
Merci Florence. Merci parce que, en t'entendant, j'ai eu l'impression que vous avez vu que la page du chapitre 17 de Jean est bien travaillée dans son évangile. Elle part dans tous les sens. Mais ça se voit que ça fait des années que tu travailles dessus, non? Et moi, au-delà du sens des choses que tu as dites, j'avais l'impression que vraiment, en lisant cette page, on a quand même la possibilité de toucher à quelque chose de pas simplement de sacré, mais vraiment de... vraiment du cœur de Dieu, dans le sens que là se passe quelque chose, vraiment là, c'est là que ça se passe, c'est là, non? Et d'une certaine manière aussi, il m'est venu un peu de nostalgie, dans le sens que on devrait, une nostalgie qui est un appel, hein, c'est-à-dire nostalgie à la conscience que c'est ça qu'on doit vivre, on peut vivre dans nos communautés, dans nos familles. Moi, je pense à mon focolard. Non, mais Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une chose que je n'avais jamais remarqué, parce que moi, j'ai vraiment très fort à moi cette exigence d'authenticité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis de côté les livres, parce que les livres, c'était comme un masque de ce que j'étais. Non? Et le fait que tu as dit que la parole nous met face à nous-mêmes d'une manière authentique et face à l'autre d'une manière authentique, comme un feu que brûle les choses qui ne servent à rien, ou qui servent à très peu, ça m'a beaucoup touché parce que ça répond à une exigence personnelle très forte, voilà, qui me pousse davantage à... Et l'autre chose, la dernière, pardonnez-moi, je ne l'avais jamais remarqué, mais en t'entendant, j'ai compris pourquoi, en fait, je lis Jean et ça me plaît, je lis Marc, beaucoup plus simple, et ça me plaît, je lis Saint Paul et ça me plaît, Matthieu et Luc, évidemment, mon préféré, mes préférés sont Jean et Luc, c'est évident, et c'est une blague, Jean et Luc. Gianluca, d'accord. Mais...
Saint-Paul, vraiment,
Ah non, Saint-Paul, c'est extraordinaire. Non, mais ce que me plaisait, c'était le fait que la vie de la parole, le rapport avec Jésus de ses premiers, a donné cette variété. Cette belle variété, qu'en fait est la variété qu'on devrait expérimenter dans l'Église, non? Dans toute l'histoire non? Du christianisme, d'ici au futur. Non? Donc, qui sait combien de beauté on va découvrir?
On vous donne. Non, je n'ai plus rien à dire. Simplement. Comment disait Saint Paul? Je vous compte. C'est beau quand Saint Paul dit adieu aux chrétiens de Mileto. Enfin, à des chrétiens, je vous confie à la parole. Donc, je vous confie à la parole.